بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 109 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Et là où on est arrivé, on était en train d'expliquer les propos des ulama du madhhab al-Shafi'i au sujet de l'interdiction d'imiter les kuffars, et on a mentionné l'interdiction de prier dans certains moments de la journée, de même que l'interdiction pour les hommes de s'habiller en femme, ou pour les femmes de s'habiller en homme, ou pour les hommes d'agir comme des femmes, ou pour les femmes d'agir comme des hommes. Et on a mentionné, maintenant le cheikh il parle des questions qui ont rapport avec le hajj et les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établies pour distinguer le hajj que faisaient les mushrikines du hajj des musulmans. Et donc il dit cheikh wa qawluhu wa dhakaru aydan anna al-mushrikina kanu yaqifuna bi'arafat ila sfirar al-shams wal-mushrikuna kanu yaqifuna bi'arafah wa yadfa'una qabla al-ghurub عند اسفرار الشمس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وبقي في عرفة حتى غربت الشمس ثم دفع منها وكذلك في مزدلفة فإن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة ويبيتون بها ولكنهم كانوا يستمرون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس فخالفهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين. Donc Cheikh explique que les mushrikoun, ils se tenaient à Arafah. Ils se tenaient à Arafah, c'est-à-dire avant l'islam, quand ils faisaient le hajj, ils continuaient à rester à Arafah. Puis ils partaient avant le coucher de soleil, lorsque le soleil commençait à devenir orange ou jaune. À ce moment-là, ils partaient avant le coucher de soleil. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a contredits, et il est resté à Arafah jusqu'au coucher de soleil, puis après le coucher de soleil, il est parti, il a quitté Arafah. Et de même qu'à Muzdalifah, les mushrikoun avaient l'habitude de rester à Muzdalifah, à dormir là-bas, puis ils restaient jusqu'à ce que le soleil se lève complètement, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a contredits, et ils quittaient Muzdalifah après la levée de l'aube. Donc ils priaient Salatul Fajr et puis ils partaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, nous avons contredit la voix des mushrikines et la façon des mushrikines. Il dit ومثل ذلك صوم يوم عاشوراء فإن صيامه عبادة قديمة فعلها موسى عليه السلام وبقيت في بني إسرائيل بل إن العرب كانوا يصومون هذا اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه ولكنه أمر بمخالفة اليهود فأمرنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. Il dit de même que en ce qui concerne le jour de Ashura qu'on vient de jeûner il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, durant la semaine passée. Et le cheikh explique que ça, c'est une adoration ancienne que Moussa alayhi salam avait fait et qui est restée chez les fils d'Israël, et que même certains parmi les Arabes avaient l'habitude de jeûner, même auparavant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le jeûner, il a encouragé de le jeûner. Mais il a en même temps ordonné de contredire les juifs en jeûnant un jour avant ou un jour après. Donc ça, c'est encore une fois la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait à ce qu'on se distingue des mushrikines et des kuffars et des juifs et des chrétiens. Il dit « وَقَوْلُهُ وَذَكَرُوا أَيْضًا الشُّرُوطُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ يعني أن الشافعية ذكروا الشروط العمرية التي وضعها عمر رضي الله عنه وأوجب على أهل الذمة أن يلتزموا بها من أجل تميز المسلمين عن الكفار وعدم تشبه المسلمين بالكفار أو تشبه الكفار بالمسلمين حتى أن يعرف أن هذا مسلم وهذا غير مسلم، ولئلا يحصل الامتزاج لئلا يحصل الامتزاج والتميع، وهذا مما يدل على بطلان التقارب معهم. Donc le cheikh explique que également parmi les ulama du madhhab al-Shafi'i, ils ont mentionné les conditions de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire les conditions qui ont été établies par Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a pris le contrôle de Bayt al-Maqdis, lorsqu'il a pris le contrôle de la région de Hasham. Et il a établi quelques conditions aux juifs et aux chrétiens, ce qu'on appelle en arabe Ahlul Dhimma, les gens qui sont sous la protection des musulmans et sous une entente avec les musulmans. Donc ils devaient respecter certaines conditions pour pouvoir vivre parmi les musulmans et continuer à pratiquer leur fausse religion. Et parmi ces conditions-là, c'est qu'ils devaient se distinguer des musulmans, qu'ils n'avaient pas le droit de s'habiller comme les musulmans et de ressembler aux musulmans dans leur façon apparente, dans leur façon extérieure de s'habiller et dans leur manière d'être. Et en même temps aussi, bien entendu, que les musulmans n'ont pas le droit de les imiter non plus et de leur ressembler, pour qu'on puisse savoir qui est musulman et qui ne l'est pas, hein, au premier regard. Et pour qu'il n'y ait pas ce genre de mélange, hein, et de fusion ou de mélange ou d'intégration, comme on dit, entre les musulmans et les non-musulmans, au point où on n'est plus capable de distinguer entre le musulman et le non-musulman. Et pour détruire justement ce rapprochement avec les juifs et les chrétiens. Ensuite, Cheikh al-Islam, il continue et il dit « وَبَالَغَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ». Donc il continue à parler des ulama des Shafi'iyya, les ulama du madhhab al-Shafi'i. Et il va également mentionner les paroles des ulama du madhhab al-Hanbali aussi. Donc dans les cours précédents, on a expliqué les positions des ulama du madhhab al-Hanafi, ensuite les positions des ulama du madhhab al-Maliki, ensuite les positions des ulama al-Shafi'iyya, on est encore en train d'en parler, et en terminant, le cheikh il mentionne les positions du madhhab al-Hanbali. Et lui-même, cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il est Hanbali parce que ses parents, son grand-père et son père, c'était des ulama eux aussi du madhhab al-Hanbali. Et donc c'est pour montrer que les ulama des quatre madhahib, ils étaient tous d'accord sur ce principe-là, l'idée qu'il n'est pas permis d'imiter les juifs et les chrétiens et de suivre l'exemple des koufars de façon générale. Et donc il dit « وَبَالَغَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَنَهُوا عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْبِدْعِ فِيمَا كَانَ فِي الْأَصْلِ شِعَارًا لَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ مَسْنُونًا كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسنيمها ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات لأن شعار الرافضة اليوم تسطحها أو تسطحها وفيها تسطيحها ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم وقالت طائفة بل نحن نسطحها فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم واتفق الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم وإنما تنازعوا في التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار. Donc on va traduire ça en premier, puis on continue ensuite le reste des exemples. Cheikh il explique que Ibn Taymiyyah dit que certains parmi les ulama de Shafi'iyya, ils ont même été plus loin que ça encore, et ils sont allés jusqu'à même interdire de ressembler aux innovateurs, aux gens de la bid'a, dans ceux qui à la base est un de leurs symboles ou quelque chose qui les distingue ou par lesquels on les reconnaît. Même si à la base ce qu'ils font est quelque chose qui fait partie de qu'est-ce qui est dans la sunna ou qu'est-ce qui est recommandé. Ils ont mentionné par exemple tasnim al-qubur, c'est-à-dire que lorsque on enterre quelqu'un, on va faire une petite butte de terre par-dessus le tombeau avec la terre. C'est-à-dire faire une petite butte, c'est-à-dire lorsqu'on a fini de remettre la terre pour fermer le trou de la tombe, eh bien on laisse une petite soulèvement sur le dessus de la tombe. Ça c'est la position de certains d'entre eux. Ils ont mentionné que ça c'était leur position de faire ça. Un groupe d'entre eux, ils ont dit il faut laisser un peu de terre par-dessus, surélever un petit peu par-dessus. Et ils disent parce que la position à la base dans le madhhab al-Shafi'i, c'est que le mieux c'est de l'aplatir la terre. Et le madhhab de Ahmad et de Abu Hanifa, c'est que le mieux c'est de laisser une petite bosse de terre par-dessus. Il dit, et un groupe d'entre les compagnons de Shafi'i ont dit, il faut laisser une petite bosse par-dessus ou bien surélever par-dessus avec la terre dans les temps présents, parce que le symbole qui distingue les tombeaux des Rafida, Shia Rafida aujourd'hui, c'est de l'aplatir, la tombe. Et donc dans le fait de l'aplatir, il y a comme une ressemblance aux Rafida dans ce qu'ils font. Et un groupe ont dit également, non, il faut l'aplatir nous aussi pour que ça ne soit plus un de leurs symboles à eux seulement. Et donc les deux groupes se sont mis d'accord qu'il était interdit d'imiter les gens de Bid'a dans ce qui était un de leurs symboles et une des choses par lesquelles on les distingue. Mais ils ont divergé uniquement dans la question de, est-ce qu'il faut aplatir la terre sur la tombe ou bien laisser une petite bosse par le dessus ou non. Et il dit, si c'est le cas qu'on ne doit pas imiter les gens de Bid'a, alors que dire de l'imitation des kuffars? C'est encore plus grave dans ce cas-là. Et il continue Ibn Taymiyyah en disant, wa amma kalamu Ahmad wa ashabuhu fa fi dhalika kathirun jiddan aktharu min an yuhsar وقد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص وعند قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقوله أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمشركين وقوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ومثل قول أحمد ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب وقال بعض أصحابه أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود وكره حلق القفاء وقال وهو فعل المجوس وقال من تشبه بقوم فهو منهم وقال أكره النعل السرار وهو من زي العجم وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذرماه وقال للذي دعاه زي المجوس ونفض يده في وجهه وهذا كثير في نصوص لا ينحصر وقال حرب الكرماني قلت لأحمد الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي قال على القباء لا بأس به وكرهه على القميص وذهب إلى أنه من زي اليهود وكرهت له السفر وأن نشد ذلك على أوساطنا فذكرت له السفر وأن نشد ذلك على أوساطنا فرخص فيه قليلا وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه وإنما كره الخيط وقال هو أشنع. قلت وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب، وأما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث لأن لا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره من أصحاب الإمام أحمد وغيره منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه من اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، ولفظ عبد القادر يكره ما خالف زي العرب وشبه زي الأعاجم. Bon, on va traduire cette partie après, on va continuer, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne les paroles de l'imam Ahmad, maintenant il passe aux paroles des ulama du madhab de l'imam Ahmad, les paroles des compagnons d'Ahmad ibn Hanbal. Il dit donc, leurs paroles sont nombreuses. Leurs paroles sont nombreuses, on peut pas les, tellement nombreuses, on peut pas les dénombrer tellement il y en a beaucoup. Et on en a déjà parlé, on a mentionné plusieurs d'entre elles lorsqu'on a mentionné certains des textes, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Hein? » Et également l'autre hadith qui dit « Laissez pousser la barbe et couper les moustaches. » Yani ne ressemblez pas aux mushrikin. Parce que les mushrikin laissaient pousser leurs moustaches et ils rasaient leur barbe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Laissez pousser votre barbe et coupez les moustaches. » Il disait également à propos des ustensiles et des plats et des assiettes en or et en argent, il a dit « Elles sont pour eux, elles sont pour eux dans la vie d'ici-bas et pour nous dans l'au-delà. » C'est pour vous dans l'au-delà, c'est-à-dire eux ils les utilisent dans cette vie, mais dans l'au-delà, ce sera pour les croyants. Également, parmi les paroles de l'imam Ahmed aussi, l'interdiction de changer les poils des poils blancs, de les teindre en noir, de teindre les cheveux blancs et les poils blancs, de les teindre en noir, c'est l'interdiction, parce que ça c'est une ressemblance aux gens du livre. Il dit, tu peux teindre tes cheveux, mais ne ressemble pas ou n'imite pas les juifs. C'est-à-dire, eux, ils teignent leurs cheveux en noir. Donc, tu peux teindre dans une autre couleur, mais pas en noir. Il a mentionné également l'interdiction de raser une partie de la tête et de laisser l'autre partie. Et il dit, ça c'est l'exemple que faisaient les Majus, les gens qui adorent le feu. Ils ont dit également, quiconque ressemble à un peuple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque imite un peuple, il est un des leurs. Il a également détesté de porter certaines sandales qui faisaient partie des sandales des mouchriquines. Et il a mentionné également l'interdiction d'utiliser les mois, les noms pour nommer les mois c'est-à-dire de nommer les mois par les noms des mois non musulmans, ou bien d'utiliser ceux des koufars et des mouchriquines pour nommer les mois de l'année. De même que de nommer les gens par des noms perses, comme il a mentionné un nom, Azarma, et il n'a pas aimé que quelqu'un se fasse appeler ainsi parmi les musulmans. Il a dit ça, c'est l'imitation des Majus. Puis il a mentionné beaucoup d'autres choses à ce sujet-là. Ensuite, il a mentionné une parole de Harb al-Kermani. qui a posé la question à l'imam Ahmad à propos de l'homme qui attache une corde autour de sa taille pour, et qui fait la prière comme ça, est-ce que ça c'est permis? Il a dit si c'est par-dessus un manteau, oui, mais je déteste que quelqu'un le fasse par-dessus le qamis. Par-dessus le qamis, parce que ça c'est l'imitation des juifs, hein, c'est les juifs qui portaient une corde à la taille. Et certains ont mentionné à propos du voyage que certains portaient une corde à la taille pendant le voyage, et il a donné une petite permission par rapport à ça, en voulant dire que dans le voyage ça c'était correct. Il dit en ce qui concerne le turban et le vêtement qu'on porte sur la tête, le taqiyya, et l'imam a le turban, il a dit ça c'est pas détestable. Qu'est-ce qui est interdit seulement, c'est de porter une corde. Donc il dit ça c'est plus mauvais. Wa qultu wa kadhalika kariha ashabuhu an yashudda wasatahu ala alwajh alladhi yushbihu fi'l ahl alkitab. Donc ils ont détesté, les compagnons de l'imam Ahmed, de porter une corde autour de la taille comme les gens du livre. Fa amma ma siwa dhalika fa innahu la yukrah fi as-salati ala as-sahih al-mansus. Donc en dehors de ça, c'est pas détestable pendant la salat. Bal yu'mar man salla fi qamisin wasi'in. Il dit que même que si quelqu'un il va faire la prière dans un qamis qui est très large et dont l'ouverture est grande, que c'est mieux qu'il l'attache pour éviter qu'il voit lui-même ses parties intimes lorsqu'il se penche ou lorsqu'il se prosterne. Parce que les gens avant, à l'époque, ils portaient pas nécessairement des sous-vêtements. Donc si leurs vêtements étaient très larges, quand ils s'inclinent ou quand ils se prosternent, s'ils regardent à l'intérieur de son camis par l'ouverture du col, peut-être il va voir sa nudité à lui-même. Et ça, c'est détestable. Donc, il dit dans ce cas-là, si c'est très large, qu'il peut l'attacher. وقال الفقهاء من أصحاب أحمد من أصحاب الإمام أحمد. Donc il y a d'autres فقهاء parmi les compagnons de l'imam Ahmad et d'autres également comme Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la et Ibn Aqil et Abdul Qadir Al-Jayli, à propos des questions qui ont rapport avec les vêtements, ils ont dit que parmi les vêtements qui sont détestables, de porter les vêtements des kuffars et des mushrikin. Hein, qu'est-ce qui leur est particulier, donc qu'est-ce qui fait partie de leur tradition et de leur coutume, donc on n'a pas le droit de les imiter. Il dit وقال ايضا اصحاب احمد وغيرهم منهم ابو الحسن الامدي والمعروف ابن البغدادي واظنه نقله ايضا عن ابي عبد الله ابن حامد ولا يكره غسل اليدين في الاناء الذي لا أكل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ونص أحمد على ذلك وقال لم يزال العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله وإنما تكرهه العامة وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديهم لأن الرفع من زي الأعاجم وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي ويستحب أن يجعل ماء اليد في طشت واحد ولما روي في الخبر لا تبددوا يبدد الله شملكم وروي أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يرفع الطست حتى يطفى يعني يمتلئ وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين لأن في ذلك تشبها بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم وعليكم السلام ورحمة الله بل قد ذكر طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر ويستحب أن يتختم في يساره الآثار ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي يستحب تسليم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها وقالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة. Donc tout ça c'est des exemples aussi de paroles des compagnons de l'imam Ahmad et des fuqaha qui mentionnent l'interdiction d'imiter les kuffars et les mushrikines et les juifs et les chrétiens. On va lire maintenant l'explication de ça. Cheikh Al-Fawzan il explique tout ça en disant wa qawluhu bal dhakara tawa'if min al-fuqaha min ashabi al-Shafi'i wa Ahmad wa ghayrihima كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله إجماع العلماء على تحريم التشبه بغير المسلمين من سائر الطوائف الكافرة وذكر مستند ذلك من الكتاب والسنة وذكر أن من العلماء من لا يقتصر على مخالفة الكفار بل إنه يرى مخالفة المبتدعة من الفرق الإسلامية والمبتدعة يعني جمع مبتدع وهو الذي يعمل بدعة في الدين أو يحدثها إما أن يعمل ببدعة موجودة وإما أن يحدث هو بدعة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدع هي إحداث شيء في الدين ليس منه ويعرف ذلك إذا لم يكن عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الدين أكمله الله قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنزل الله على رسوله في ختام حياته وهو واقف بعرفة في حجة الوداع التي لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وأياما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le Cheikh il explique que certains parmi les groupes des fuqaha, des compagnons de l'imam Shafi'i et Ahmad et d'autres ont détesté la ressemblance ou l'imitation même de certains parmi les gens de l'innovation, les gens de bid'ah. Et il dit que ça c'est après avoir mentionné le consensus des ulama sur l'interdiction de ressembler aux non-musulmans dans le reste des groupes des kuffars, des différentes catégories de kuffars, et il a ramené cela aux preuves du Coran et de la Sunna, et il a mentionné que les ulama ne se limitent pas seulement à l'ordre de contredire les kuffars, c'est-à-dire les non-musulmans, mais ils voyaient également qu'il fallait également contredire les innovateurs parmi les différentes sectes, hein, et parmi les différents groupes d'innovation. Et donc il dit que le mubtadi', c'est celui qui fait des innovations dans la religion, qui invente des choses nouvelles dans la religion. Soit qu'il pratique une innovation qui existe déjà, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà inventé avant lui, et lui, il la pratique, cette innovation, ou bien qu'il l'invente lui-même. Hein? C'est lui-même qui l'a inventé ou qui l'a créé. Donc dans les deux cas, c'est quelque chose qui est interdit. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les deux cas, il a dit celui qui invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, ce sera rejeté. Et dans l'autre narration, il dit quiconque invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Et dans l'autre hadith, il dit prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute invention dans la religion est une innovation, est une bid'a, et toute bid'a est égarement, et tout égarement amène au feu de l'enfer. Puis il dit ensuite que les innovations, c'est tout ce qui est inventé dans la religion et qui n'en fait pas partie. Et on peut savoir que cela n'en fait pas partie lorsqu'on ne trouve aucune preuve à son sujet, ni dans le Coran, ni dans la Sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la religion a été complétée après la mort du prophète, avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se tenait à Arafah dans le discours d'adieu qu'il a fait, et c'est le lorsqu'il a fait le dernier hajj, hein, et le discours d'adieu qu'il a fait à ce moment-là, après ce discours-là, il n'a vécu que 2 mois et quelques jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, le jour de Arafat, lui a révélé le verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. » Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la religion, elle est complétée, elle est finie. On ne peut plus ajouter. Et il dit « Donc aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Le cheikh, il dit donc « فَهَذَا إِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ أن هذا الدين تكامل وأنه لا يقبل الزيادة إلا أن طوائف من المنتسبين للإسلام أبوا إلا اتباع البدع والمحدثات والزهد في السنن وهذه آفة أهل البدع فإن أصحابها لا يحرصون على السنة بل ينفرون منها ويقبلون على البدع ويتمسكون بها فالواجب على المسلمين أن يقاوموهم وأن يحذروا منهم كما حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit donc que ça c'est une annonce de la part d'Allah que la religion a été complétée et qu'elle n'accepte pas des ajouts, excepté que certains groupes parmi ceux qui se disent musulmans et qui prétendent appartenir à l'islam ont refusé de suivre, excepté les innovations et les inventions dans la religion, et ont délaissé les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et ça, c'est le malheur des gens de l'innovation, puisque ils ne donnent aucune importance et ils ne font pas d'efforts pour appliquer la sunna, et ils s'enfuient de celle-ci tandis qu'ils se tournent vers les innovations et ils se cramponnent à celle-ci, ils s'accrochent à celle-ci. Et l'obligation plutôt pour les musulmans, c'est de justement affronter ces innovateurs-là et de mettre en garde contre eux, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a averti et a mis en garde contre eux. Il dit: wa ahlul ilmi man mana' at-tashabbuh bi ha'ula al-mubtadi'a kama yamna'u at-tashabbuh bil kuffar fa hum yamna'un at-tashabbuh bil mubtadi'ati hatta la yasir al-mar'u minhum fal mubtadi'atu laysu kuffaran fi al-jumla ما داموا ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يحكم عليهم بالكفر إلا بعد تفاصيل معروفة وإن كان من البدع ما يوصف صاحبها بالكفر. Donc le cheikh dit parmi les hommes de science, hein, donc ils ont interdit d'imiter les innovateurs et les gens de bid'a. De la même manière qu'on interdit aux musulmans d'imiter les non-musulmans. Et donc, ils interdisent même de ressembler et d'imiter les innovateurs. Donc, d'imiter les kuffars, les shi'as, rafida, d'imiter les soufiyas, d'imiter les khawarij, d'imiter les mu'tazila, yani les différents groupes de bid'a qui existent. Il dit pour éviter de devenir comme eux et de leur ressembler. Parce que même si les innovateurs ne sont pas des mécréants, de façon générale, tant qu'ils appartiennent à l'islam, tant qu'ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », eh bien, on ne va pas dire d'eux que ce sont des mécréants ou des non-musulmans, excepté après avoir vérifié des détails bien connus dans la charia, il y en a bien connus des ulama. Il dit « Même si certains parmi les innovateurs peuvent être décrits comme étant des gens qui ont commis des actes de kufr ou qui ont des croyances qui sont kufr ou qui ont des pratiques qui sont kufr ou shirk, hein? Et le cheikh, il explique ensuite, il dit wa qawluhu wa yustahabbu an yatakhattam fi yasarihi yustahabbu an yatakhattam fi yasarihi lil athar wal aslu an attakhattum min al mubahat li anna al insan yahtaju ila al khatim لينقش عليه اسمه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم ويكتب عليه اسمه لأجل أن يختم به على الرسائل والكتب ولقد كانوا يضعونه في اليد اليسرى ولكن الأمر في هذا واسع فلا حرج أن يوضع في اليد اليمنى لكن إذا كان المبتدع يلبسونه في يد دون الأخرى فإن من العلماء من يرى مخالفتهم في ذلك بأن يوضع في اليد التي لا يضعه فيها المبتدعة إظهارا لمخالفتهم. Donc il dit qu'il est recommandé de porter la bague dans la main gauche à cause des narrations à ce sujet. Et il dit à la base de porter les bagues, une bague en argent, on a parlé de ça au dernier cours, dans les cours précédents, que c'est permis de le porter parce que quelqu'un peut avoir besoin de porter une bague ou un sceau, hein, et il écrit son nom dessus, hein, dans cette bague. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague et il écrivait son nom dessus. Comme ça, quand il envoyait des lettres ou des messages, il pouvait sceller cette lettre avec son nom, hein, avec son nom dessus. Et donc, c'est comme ça que les gens faisaient à l'époque. Quand ils envoyaient une lettre, quand ils envoyaient un message, ils mettaient la lettre, ils la pliaient, puis ils mettaient quelque chose là comme qui colle, et puis il mettait sa bague par-dessus pour mettre son sceau, pour dire que ça vient de lui, et puis il l'envoyait comme ça. Donc c'était une manière de faire en sorte que les messages soient confidentiels. Et il dit que à la base on la portait dans la main gauche. Mais il dit, il n'y a rien de mal de la porter dans la main droite aussi. Il dit toutefois, si par exemple c'est devenu une habitude chez les innovateurs de la porter dans une main plutôt que dans une autre, dans ce cas-là, certains d'entre les ulama considèrent que c'est bien de les contredire en la mettant dans la main sur laquelle les innovateurs ne la mettent pas, pour laisser paraître une distinction d'avec les innovateurs. Il dit وقوله وحتى إن الطوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور. العلماء في القبور مجمعون على أنه لا يجوز رفعها وتشييدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن فاعله ولأن فعل ذلك وسيلة إلى الشرك وإنما اختلف أهل السنة كيف يكون وضع أسطحة القبور غير المرفوعة فبعضهم يرى أن تكون مسنمة لأجل أن ينزل ماء السيول عليها والبعض وهم الشافعية يرون أن تكون مسطحة أو مسطحة لا مسنمة ولكن مؤخري الشافعية لما رأوا أن بعض أهل البدع يسطحون قبورهم رأوا مخالفتهم فجعلوا يسنمونها وإن كان هذا خلاف مذهبهم لكن إنما فعلوه من أجل مخالفة المبتدعة. Donc le cheikh il mentionne à propos de la question des tombeaux, comme on a mentionné tout à l'heure, que les ulama sont tous d'accord sur le fait qu'il est interdit de surélever les tombeaux et de construire quoi que ce soit par-dessus les tombeaux. Ça c'est clair, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit et il a maudit celui qui le faisait. Il dit parce que ça peut également être une cause ou un moyen qui amène les gens à tomber dans le shirk, et parce que c'est en contradiction avec la sunna. Tandis que les gens de la sunna, ils ont divergé sur la question de ce qui est permis de faire avec la tombe une fois qu'on a terminé de remettre la terre par-dessus. Est-ce qu'il faut la mettre plat ou bien est-ce qu'on peut faire une petite butte de terre surélevée, yani, sans que ce soit trop élevé, juste remettre une petite butte de terre par-dessus. Et il mentionne le cheikh que certains d'entre les ulama ont préféré que ce soit de forme arrondie sur le dessus avec la terre, pour que s'il y a de l'eau qui coule, ça va ça va pas rester par-dessus le tombeau, ça va couler. Tandis que Shafi'iyya, ils ont mentionné que ils considèrent que c'est mieux que ce soit aplani, hein, plat, et non pas arrondi sur le dessus. Même si les Shafi'iyya qui sont venus par la suite, lorsqu'ils ont vu certains parmi les Rafidah, les Shia, qui faisaient justement aplatir leur tombeau, ils ont commencé à faire à l'arrondir un peu, justement pour contredire ce qu'ils faisaient, même si pour eux, à la base de leur madhab, c'était de l'aplatir. Et ils ont fait ça dans le but de contredire les innovateurs. Donc, les ulama, ils ont dit, si c'est le cas, qu'on doit contredire les innovateurs, alors que dire de ne pas imiter les mécréants, c'est encore plus important. Il dit, وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات وإنما الغرض ببيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة لتعرض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة. Il dit que le but, c'est pas de rentrer dans le détail de chacune de ces questions-là et de parler au sujet de ce qui a été dit à leur sujet, soit en affirmation ou en négation. Mais le but, c'est uniquement de clarifier ce sur quoi les ulamas se sont mis d'accord de ce qui est interdit ou détesté, d'imiter les gens qui ne sont pas musulmans ou qui ne font pas partie de l'islam. Même s'il dit, il est possible que certains d'entre les ulamas aient des désaccords ou des hésitations par rapport à certaines des branches qui sont reliées à cette règle, à cause de l'opposition de certaines des preuves, hein, peut-être qu'ils ont trouvé dans certaines de ces preuves-là des oppositions ou des contradictions dans certains des points, ou bien parce que certains ont considéré que certaines questions parmi ces exemples-là ne rentraient pas dans la règle en question. Il dit ومثل ذلك ما نقله الأثرم وقال سمعت أبا عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبوس الحرير في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به بأس قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحيلة في والحيلة فيها فقال أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون هي زي الأعاجم وكانوا يحتجزون العمائم وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيه من التشبه ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمتق ولهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة ولا مخالفة فيه ولأصحابه وجهان أحدهما نعم لأنه لولا موافقته له لكان قد أجاب السائل بغيره لأن إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس والثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له لأنه إنما حكاه فقط بمجرد الحكاية لا يدل على الموافقة وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس له ليس هذا موضعه. Donc le cheikh, il mentionne des exemples de ces questions-là, dont le sujet par rapport auquel il a mentionné le fait que certains ulama peuvent avoir des divergences sur l'application de certaines de ces règles et est-ce que ça rentre dans la règle de l'interdiction d'imiter les kuffars. Et on va lire les explications de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Il dit « وليس الغرض تقرير أعيان هذه المسائل » يعني ليس الغرض جمع ما كل ما ورد من الأقوال والأثار في منع التشبه لأن هذا يطول وإنما الغرض ذكر نموذج يدل على إجماع العلماء على تحريم التشبه بالكفار فيدخل تحت الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع. Il dit que le but c'est pas de mentionner toutes les preuves et tout ce que les ulama ont dit là-dessus sur l'interdiction d'imiter les koufars, parce que sinon ce serait trop long. Et il dit le but c'est seulement de mentionner quelques exemples hein, du consensus des ulama sur l'interdiction d'imiter les koufars, et que ça rentre dans la troisième preuve parmi les fondements des preuves de la charia, c'est-à-dire la preuve du consensus, al-ijma. Ça fait partie des preuves, des fondements de la charia. Les premières preuves, c'est la preuve du Coran. Ça, c'est la première base. La deuxième base, c'est les preuves de la sunna. Et la troisième, les preuves de l'ijma. Et c'est ça qu'on était en train d'expliquer. Et il dit, wa qawluhu wa qad yataraddadu ba'du al-ulama fi ba'di hadhihi al-qa'ida. يعني أن العلماء مجمعون على تحريم التشبه بالكفار في الجملة وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائل وهذا لا يضر الإجماع إذ أنهم أجمعوا على الأصل فهم لا يختلفون في أن التشبه بالكفار يجوز أو لا يجوز لا يختلفون في هل يجوز أو لا يجوز وإنما لظن بعض العلماء أن المسائل أو أن المسألة الفلانية لا تندرج تحت باب التشبه المحرم أو لتعارض الأدلة عندهم فيها أما الأصل التشبه فهو عندهم حرام. Donc le cheikh il dit que les ulama sont tous d'accord sur l'interdiction d'imiter les kuffars en général, mais même si par exemple sur certaines questions c'est possible qu'ils aient eu des divergences, ça ne nuit pas au consensus et ça ne vient pas en contradiction avec le consensus lui-même parce que ils sont d'accord sur la base hein. C'est-à-dire que, yani, ils ne divergent pas sur la question est-ce que c'est interdit d'imiter les kuffars ou non. Ils ne divergent pas là-dessus, parce que là-dessus, ils sont d'accord. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais c'est uniquement le fait que certains parmi les ulama ont divergé sur une question en particulier. Est-ce qu'elle rentre dans cette question-là? Est-ce qu'elle rentre dans ce sujet-là ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'elle rentre dans l'imitation des kuffars qui est interdite ou non? Ou bien parce que certains ont considéré ou ils ont vu des contradictions ou des oppositions dans certaines des preuves qu'ils ont ramenées. Mais en ce qui concerne la question à la base, sur l'imitation des koufars, ils sont tous d'accord que ça c'est haram. Donc il n'y a pas de divergence sur la base. Il dit « Wa qawluhu wa mithlu ma naqala al-Athram » Il dit « Al-Athram min kibari ashab al-imam Ahmad wa talamidhu wa talamidhihi » وسأل الإمام أحمد عن لبس الحرير في الحرب يعني في وقت المعركة فقال لا بأس به نظرا لما في لبسه من المصلحة لأن المجاهد إذا لبسه غاض الكفار ولأن لبسه يدل على القوة والغنى والفخر وهو مطلوب في الجهاد والأصل في الحرير أنه حرام للرجال ويستثنى من ذلك هذه الحالة أي نعم. وكذلك إذا كان في الإنسان حكة شديدة وحساسية فيؤذن له في لبسه ولقد رأى بعض العلماء تحريم الحرير حتى في الحرب فدل على أن اختلافهم أو أن اختلافهم في الفروع أما الأصل فهم مجمعون على تحريمه. Donc il dit le cheikh que en ce qui concerne par exemple une parole qui a été mentionnée à propos par exemple de la soie, les vêtements de soie. Al-Athram, qui est un des élèves, parmi les grands élèves de l'imam Ahmad et un de ses compagnons, il a posé la question à l'imam Ahmad au sujet de porter des vêtements de soie pendant la guerre, c'est-à-dire dans la bataille. Est-ce que ça s'est permis? Et l'imam Ahmad a dit qu'il n'y avait pas de mal à ça, puisqu'il y avait un bienfait dans ça pour le mujahid, pour le combattant. Puisque cela enrage les koufars, parce que le fait de le porter indique la force et la richesse et la fierté. Et c'est ce qui est exigé dans le djihad. Même si à la base, la soie est interdite pour les hommes. Donc le cheikh dit on met ça dans les exceptions, c'est-à-dire que ça rentre dans les exceptions. Et il dit de même que l'homme qui a une démangeaison, ou bien qui peut-être a de l'eczéma, ou bien une maladie de peau, qui fait que la personne elle se gratte énormément. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il est permis pour lui de porter de la soie? Eh bien, les ulama l'ont permis pour ce genre de situation-là, pour la personne qui a des maladies de peau. Hein? Même que certains, mais par contre, certains ulama ont considéré que de porter la soie est interdite, même dans la guerre. Donc, le fait qu'ils aient divergé dans cette branche de la question, ça ne change rien au fait que dans la base, ils sont tous d'accord sur son interdiction. D'accord? Donc, ça arrive des fois que les ulama sont d'accord sur le principe à la base, mais que sur certaines des points ou des détails de la question, ils aient des divergences entre eux sur l'application de certains de ces cas-là. Il dit, وَقَوْلُهُ وَنُقِلَ عَنْ بَعْدِ السَّلَفِ أَنَّهُ كَانَ يَتَمَنْتَقْ يعني يحرم علينا أن نتشبه بالكفار في الأمور الخاصة بهم، أما الأمور العامة كاللباس والحزام الذي يكون في وسط الجسم لأجل العمل أو لأجل الحاجة فلا بأس به، مع أن الكفار كانوا يحزمون أوساطهم، لأن الفعل هنا ليس للتشبه بالكفار، وإنما الغرض من هذا التقوية على العمل، فعلى هذا يباح للمسلم أن يلبس المنطقة. وقوله ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره؟ هذه مسألة استطرادية، والمقصود أنه إذا نقل الإمام أحمد كلاما أو فتوى لغيره فهل تنسب إليه هو أيضا، لأنه حكاها وأقرها، يعني هل حكاها من باب الإقرار أو من باب رواية هذه المسألة عن غيره، وبالتالي هو لا يراها. وقد ينقل الإنسان شيئا وهو لا يراه، فليس من اللازم إذا نقل شيئا أن يكون مقتنعا به. Donc le cheikh il a mentionné les deux derniers points qui avaient été mentionnés ici, c'est la question de porter une corde autour de la taille, on avait mentionné ça tout à l'heure. Et il dit que il est interdit pour nous d'imiter les koufas dans les choses qui leur sont particulières. Il dit, tandis que les choses qui sont générales, comme les vêtements, les ceintures, hein, les choses comme ça qu'on porte autour de la taille, il y en a dans le but de faire un travail, hein, ou pour un besoin quelconque, il dit ça, il n'y a pas de mal, parce que même si les koufars ils portent des ceintures autour de leur taille ou des cordes autour de leur taille, on ne fait pas ça dans le but de les imiter, mais uniquement dans le but de pouvoir faire un travail de manière plus efficace. Et donc dans ce cas-là, c'est permis aux musulmans de le porter, donc de porter une ceinture par exemple, ce serait pas interdit. Il dit également que si par exemple un savant, on lui pose une question et qu'il répond par une parole d'un autre savant, est-ce qu'on considère que le fait qu'il a cité la parole d'un autre savant, ça veut dire qu'il est d'accord avec cette parole-là, ou bien qu'il a uniquement mentionné cette parole comme exemple? Et donc le cheikh il explique que le fait qu'un savant mentionne une parole de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'il est lui-même d'accord avec cette position-là. Peut-être qu'il ne fait que mentionner cet exemple, hein, et que lui-même il n'en soit pas convaincu. Donc ça c'est un autre point que le cheikh a mentionné comme ça au passage. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera la suite au prochain cours inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.